France Inter, le 18-20.
Allez, répondez franchement, à part le numéro de vos parents, parce que c'est le même depuis 50 ou 60 ans, est-ce que vous connaissez par cœur des numéros à part le vôtre? Vos enfants peut-être, leur portable et encore, c'est même pas sûr, mais sinon, quand il suffit de retrouver un nom sur un écran, à quoi bon aller chercher au fond de sa mémoire? Plus encore, pourquoi on perd nos clés régulièrement? Ça c'est pour moi j'avoue. Pourquoi est-ce qu'on suit nos GPS tellement bêtement qu'on sait même plus par où on est passé et qu'on est donc capable de se perdre sur le chemin du retour, à force de zapper d'une chaîne à l'autre, peut-être d'un site à l'autre, d'une idée à l'autre, d'un clic à l'autre, bah on n'imprime plus ou on imprime moins, peut-être parce qu'on est tellement sollicité par les écrans, les couleurs, par ce qui pop devant nous que notre attention est diminuée et donc notre mémoire aussi. Est-ce que vous vous souvenez encore des poésies de votre enfance? Les fables de La Fontaine, tiens, nos parents, eux, encore eux plutôt, sont capables de s'en souvenir et de vous réciter aujourd'hui encore un peu de Victor Hugo et un peu de Jacques Prévert. Mais vous... Et finalement, est-ce que c'est grave, docteur, après tout, puisque l'accès à l'information est désormais si facile? Pourquoi pas être un peu plus feignant? Ça se travaille, non, j'imagine, la mémoire? Est-ce que ça se retrouve? Est-ce que c'est la faute réellement des nouvelles technologies dont il faut savoir se séparer pour retrouver nos temps de cerveau bien disponibles et même donc retrouver nos mémoires? Et que dire de ceux qui retiennent tout, par date, par nom? Eux aussi ont des tablettes et des smartphones. Pourquoi ne sommes-nous si inégaux devant la mémoire? On en parle ce soir, soyez les bienvenus.
Fabienne Sintès, le téléphone sonne.
Et au téléphone sonne, pour commencer, je crois que c'est Guy, mais je ne suis pas sûre que Guy soit réellement en ligne en fait. Est-ce que oui, c'est Guy? Je vais tout vous raconter. Guy, normalement j'ai un signe jaune et là il est vert, donc j'étais pas sûre. Mais allez-y, on vous est toutes perturbées, on vous écoute.
Pour introduire, je vais prendre une référence du livre de Michel Serres, Petit Poucet, qu'il a écrit quelques années, où il racontait que la mémoire, les capacités cognitives humaines ont évolué avec les technologies que les humains ont développées. Et au moment du passage de l'imprimerie, la mise à disposition des livres et donc leur fréquence de plus en plus présente dans la vie allait faire disparaître la mémoire des humains, puisqu'il n'y aurait plus besoin d'apprendre de connaître trop les livres, puisqu'on les aurait plus facilement sous la main. Mmh. Et donc aujourd'hui, on a la même transformation, c'est-à-dire qu'on va avoir un glissement cognitif. À partir du moment où il y a eu l'imprimerie, il y a eu l'expansion de la connaissance, l'arrivée derrière de la méthode scientifique, et aujourd'hui, la mémoire, au lieu de cette partie cognitive de la mémoire où on devait tout retenir et beaucoup de choses, où l'enseignement était basé sur la connaissance, ce que malheureusement on ne fait pas, ce qu'a oublié notre cher ministre, on va le transformer en autre chose que de la mémoire. On va utiliser ce qu'on utilise en mémoire, on va l'utiliser en intelligence. Voilà.
Écoutez, merci Guy pour cette très jolie entrée en matière qui nous permet d'entamer ce débat pour vous répondre, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Roland Portichet, là, bonsoir. Vous êtes docteur en philo, documentariste, vous avez écrit Mémoire totale, hypermnésique, pourquoi sont-ils des surdoués de la mémoire? Ça vient de sortir là, chez Stock. Et bonsoir Francis Eustache.
Bonsoir.
Vous êtes neuropsychologue, directeur d'une unité de recherche associant notamment l'INSERM, l'Université de Caen et l'École pratique des hautes études. Et vous êtes en duplex depuis nos amis de France Bleu à Caen. Merci à eux également. Commençons avec vous, Roland Portiche, mais je vous posais la question, Francis Eustache aussi. Il a raison, non, notre auditeur Guy? Il y a une sorte de glissement cognitif. En gros, c'est un peu ce que je disais en introduction. C'est pas si grave, docteur, si?
Il n'a pas tort. C'est ce qu'on peut appeler le phénomène de l'amnésie digitale. Alors, l'amnésie digitale, ça se traduit par une formule: tout ce qui passe sur mon smartphone sort de mon esprit. Et il y a un risque. Il y a un risque. Alors évidemment, je crois qu'il faut pas jeter, les technologies nouvelles. Elles peuvent vraiment nous aider, mais il faut faire attention à ça parce que évidemment, à partir du moment où on délocalise la mémoire sur nos petits outils, ce que on finit par ne plus faire la synthèse entre ce que je sais et ce que j'apprends. On apprend tous les jours des choses, mais si on ne les met pas en relation avec ce que nous savons et qui est présent en nous, l'ordinateur le fera pas pour nous. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Je crois qu'il va falloir nous apprendre. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ces outils de telle manière à ce qu'on n'en pâtisse pas.
Mais est-ce qu'il faut vraiment tout retenir? C'était aussi le sens d'une partie de la question de Guy. Est-ce qu'il est vraiment utile, je vais le dire comme ça, de tout retenir puisqu'on on peut revenir dessus le plus vite possible, en fait, extrêmement facilement?
Tout retenir, on peut facilement étouffer dedans. Et c'est véritablement problème des hypernésiques parce que eux, effectivement, sont étouffés par la mémoire. Et donc, je crois qu'il faut effectivement qu'on apprenne aussi à oublier, ou en tout cas à ne pas avoir toutes les informations présentes à l'esprit. Mais en effet, je crois que il faut quand même être conscient, et ça, c'est Monsieur Stage, ça fait partie de ses obsessions, il a bien raison, que l'oubli est inséparable de la mémoire. Si on n'arrive pas à oublier, c'est-à-dire à faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, on se servira très mal de la mémoire. Dans un cas, on délocalisera totalement les informations. Dans l'autre cas, on risque effectivement de crouler sous une masse d'informations inutiles. Donc il y a un équilibre à trouver, et qui n'est pas simple à trouver, en particulier avec les jeunes générations.
Bah tiens, Francis Eustache, puisque vous avez été interpellé par notre ami Roland Portich, est-ce qu'il faut alors faire le tri? Oui, sûrement, mais est-ce qu'on le fait de moins en moins bien, peut-être, ce tri aujourd'hui, en fait, dans ce qu'il faut retenir et ce qui est moins important à retenir?
Alors, tout d'abord, ces nouvelles technologies, elles nous apportent beaucoup. Il faut d'abord dire ça avant de passer à la réflexion et à la critique. Elles changent nos façons d'apprendre et on les intègre de plus en plus dans l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement primaire, dans le secondaire, à l'université. On réfléchit aussi beaucoup sur ces sujets-là. Et je pense que c'est très important d'articuler les façons classiques d'apprendre et puis ces façons nouvelles. Alors après, il y a potentiellement des travers, et c'est très important d'y réfléchir à ces travers. Alors déjà, il y a l'outil l'écran, ça a été juste mentionné. Et ça, sur ce sujet-là, au moins, on a des résultats qui sont très forts. Alors que sur d'autres domaines, on est plus dans la réflexion, dans l'appréhension, dans les hypothèses. Sur les écrans, il faut faire très attention. Les écrans sont néfastes, notamment le soir, parce que là, on approche de la soirée. Et ils sont néfastes, notamment pour les enfants, les adolescents, si on les utilise trop. Donc là, il y a un effet direct sur le sommeil, qui a comme contre-coup de moins bien consolider les informations. Donc Roland Portich parlait tout de suite de synthèse. C'est vrai que le travail de la mémoire, c'est un travail de synthèse. C'est une synthèse à la fois sur le plan personnel, sur le plan des connaissances qu'on a sur le monde. C'est beaucoup plus important que simplement avoir quelques souvenirs du passé. C'est vraiment, la mémoire, c'est quelque chose qui nous construit et qui nous permet d'interagir avec le monde, qui nous permet d'anticiper. Et si on a un sommeil de mauvaise qualité, donc d'emblée, on est pénalisé. Donc ça, c'est le premier point qui est très simple. C'est un mécanisme physiologique qui est très simple. Mais il faut le rappeler quand on parle de la mémoire et quand on parle du numérique, etc. Parce que le numérique, il pose un certain nombre d'autres problèmes. Il y a l'utilisation du numérique aussi qui pose un certain nombre de questions qui sont très importantes. Et puis, il y a aussi une utilisation sociale du numérique sur lequel il faut réfléchir. Le numérique en soi, c'est une évolution technologique qui est très intéressante. C'est l'utilisation qu'on va en faire sur laquelle il faut réfléchir, et notamment, comme c'était dit tout de suite, quand on pense aux enfants et aux adolescents, parce que les adultes, en quelque sorte, ont connu un avant, un avant numérique omniprésent. C'est beaucoup moins le cas des enfants, donc il faut établir des règles. Je pense que c'est très important d'établir des règles, de donner des conseils. C'est vrai que le ministre de l'Éducation a donné des conseils sur l'utilisation des smartphones dans les collèges. Moi, je trouve que c'est bien. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais ça montre qu'il y a une question posée. Et je trouve que c'est un bon signe de montrer que ces outils qui nous mettent en contact avec le monde, qui sont vertueux, a priori, peuvent aussi être néfastes si on les utilise mal.
Roland Portich, puisqu'on parlait de l'école notamment, c'est toujours l'exemple qu'on donne, et j'en parlais tout à l'heure en introduction, les fameux poèmes dont on se souvient ou dont on ne se souvient pas. Le fait qu'on ait abandonné le par cœur, est-ce que ça enlève la gymnastique de notre mémoire, en fait? Faudrait-il revenir à ça ou pas? Ou ce sont de vieilles méthodes, finalement?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, ça serait intéressant. Moi, en tout cas, je ne regrette pas du tout, dans ma jeunesse, d'avoir appris des poèmes par cœur. Je suis d'ailleurs ravi de pouvoir les réciter.
Mais je vous en prie, allez-y, si ça vous fait plaisir.
Mais voilà, parmi les choses que disait...
Le siècle avait deux ans, Rome me remplaçait Sparte, Napoléon voilà. Déjà a percé sous Bonaparte.
Voilà, oh, percé du de... je ne sais plus quoi. Et donc, Francis Eustache avait raison de mettre l'accent sur l'équilibre nécessaire à trouver. Et en particulier, il y a une chose, précisément à la veille des examens, qui me paraît très très importante, c'est les interférences. Je crois que il n'y a pas de mémoire sans encodage de l'information. Mais cet encodage nécessite un minimum d'attention et de concentration. Et si on n'a pas cette concentration, ben on aura du mal à encoder l'information parce qu'on ne retiendra rien. Et la véritable menace, moi je me souviens quand je passais mes examens, ben je m'enfermais dans une chambre. Alors c'était le silence, c'était un petit peu ennuyeux, mais on ne pouvait pas faire autrement. Mais aujourd'hui...
Et vous les avez eus.
Et voilà.
Vous êtes docteur en philo maintenant.
J'ai fini par les avoir. Mais le problème là, c'est qu'ils ont à disposition, toute une génération, à disposition un certain nombre d'outils qui fait que les interférences sont multiples et que très très vite le téléphone portable peut sonner, très vite, bon. Et tout ça, effectivement, risque de rendre moins facile l'encodage des informations.
Bonsoir Reda.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, soyez le bienvenu au téléphone sonne, allez-y.
Oui, merci, c'est gentil. Oui, donc je voulais porter mon témoignage par rapport au sujet auquel vous êtes en train de parler. Donc moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, justement. Je voulais vraiment vous faire partager ça. Donc d'habitude, j'ai toujours l'habitude de charger mon téléphone, donc toute la nuit, pour que le matin, quand je me lève, il soit chargé à 100% pour que je puisse passer la journée avec. En l'occurrence, moi, j'utilise mon téléphone beaucoup pour le GPS, parce que bon, je travaille, j'ai à peu près 30 km de ligne ou 40 km de ligne et je dois me déplacer dans ces 40 km et je dois enregistrer des points auxquels il faut que j'y aille en toute urgence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me suis fait avec mon téléphone, il y avait 12% de batterie. Ça veut dire que j'ai passé toute ma journée sans batterie à chercher des accès. Je vous dis honnêtement, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a parlé en premier, je me rappelle plus.
Guy, c'est pas grave.
Voilà, c'est ça. Et non, mais c'est vrai qu'on est dépendant de nos appareils, on est dépendant de tout ça, et c'est pas bon. Il faudrait essayer d'allier les deux, de faire les deux. Utiliser le GPS du téléphone, par exemple, mais aussi d'essayer de se rappeler de temps en temps où est-ce qu'il faut qu'on aille ou qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment très compliqué. Je vais vous raconter aussi votre expérience.
Rapidement, Reda, parce que votre ligne est vraiment mauvaise.
Rapidement.
Ou alors, il faut que vous vous mettiez ailleurs, que vous vous gariez ou un truc comme ça, parce que vraiment, autour de vous, on a l'impression qu'il y a vraiment du monde.
D'accord, attendez, je vais peut-être enlever le Bluetooth.
Ah ben voilà, si vous enlevez le kit main libre, c'est mieux.
Voilà,
peut-être.
Ah, bah, que là, vous m'entendez
ah,
mieux.
Ah, mais alors, bonjour Reda, bonsoir, bon, soyez le bienvenu au téléphone sonne. Allez-y. Allez-y.
Alors en fait, ce qui s'est passé une fois, c'est qu'il y a eu une tempête. Je travaille à la SNCF et donc il y a eu une tempête et on s'est levé le matin, il y avait plus de réseau, plus de Orange, ni Free, ni SFR, ni Bouygues, et il y avait plus de stations de radio non plus. Donc ça veut dire que nous, nos radios qu'on utilise pour se parler, ça fonctionnait plus. En fait, personne n'a pu travailler la journée là. Personne n'a pu, parce qu'on pouvait plus communiquer, on pouvait plus aller dans les accès, comme je vous disais, qu'on avait repéré avec nos GPS. Et voilà, donc c'est vraiment moi je pense qu'on est on est vraiment dépendant de nos smartphones et c'est pas très bon.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Reda. Vous avez fait rire Roland Portiche, parce que il a raison, Reda. Finalement, on fait plus attention, donc on fait même plus jouer notre cerveau et pas notre mémoire, puisque le GPS nous aide, ben on réfléchit même plus où on est en fait.
Ben oui, il y a eu une enquête qui a été faite par une société de sécurité informatique. Ils voulaient savoir un petit peu comment les gens fonctionnaient avec leur smartphone, et ils se sont rendu compte que d'abord la plupart des gens connaissaient même plus le numéro de téléphone de leurs enfants. On appuyait simplement sur une photo pour avoir... mais confiaient pratiquement toute leur vie à leur smartphone. Et eux, ça les intéressait en tant que société de sécurité informatique, dans la mesure, à partir du moment où vous avez perdu votre smartphone, et c'est arrivé, ils se sont rendus compte que c'est pas simplement quelque chose d'un petit peu ennuyeux, mais ça devient très vite quelque chose de dramatique, parce que vous avez l'impression qu'une partie de votre vie est partie.
Et vous avez remarqué comme moi que quand on l'a perdu, au lieu de chercher une solution, on cherche une prise. ou en tout cas ou quand il n'y a plus de batterie. C'est notre premier réflexe, c'est celui-là. Est-ce qu'on désapprend, Francis Eustache, quand on n'y prend pas garde et qu'on est dans une situation comme celle que nous décrit Reda, on désapprend, on perd des réflexes, une gymnastique de cerveau en fait.
Oui, ça montre que ça marche bien, hein, que ces outils, en fait, ils sont formidables et ils nous aident au quotidien. Alors, effectivement, ce qui est embêtant, c'est si on n'apprend plus, quoi. Si on n'apprend plus par cœur. Et moi, l'exemple que vous avez pris était très beau, les poésies, les chansons, parce qu'il y a aussi la dimension, il y a les mécanismes de la mémoire qu'il faut entretenir, et le par cœur, ça en fait partie, et il faut apprendre les multiplications, les règles de multiplication, même si on a des calculettes, c'est quand même essentiel, et donc il n'y a pas d'autre façon que d'apprendre par cœur. Et puis, pour d'autres aspects que vous avez cités, les poésies, les chansons, c'est aussi le lien social, et c'est très important, notamment quand les personnes vieillissent, en fait, c'est ce qui va rassembler les personnes. Moi, je pense aux personnes qui ont des troubles de mémoire, ou même des troubles très sévères de la mémoire. En fait, tous ces apprentissages qui ont été ressassés de longue date, ce sont des apprentissages qui, au-delà de la mémoire individuelle, permettent de conserver des contacts entre les personnes. Et c'est aussi très important, c'est une dimension très importante.
Mais est-ce que c'est irréversible et sans retour, Francis Eustache? Est-ce que ça veut dire qu'on peut réhabituer sa mémoire, on peut la refaire travailler? Est-ce qu'il faudrait même faire des exercices, se remettre à apprendre des poèmes ou autre chose? Est-ce qu'on réapprend, en fait? Est-ce qu'on peut se réapproprier notre mémoire ou pas?
Oui, mais... Est-ce qu'il faut réapprendre vraiment les numéros de téléphone?
Alors voilà, il y a des choses inutiles et d'autres
on peut se passer si on... Bon, il faut éviter de perdre son smartphone, quoi, parce que là, c'est vrai que ça crée un peu d'angoisse pendant quelques jours. Mais non, je pense que ce qui est très important, c'est de prendre conscience qu'il faut un certain temps pour apprendre. Il faut pas sans arrêt zapper, passer d'une information à l'autre. Il faut pouvoir se concentrer sur des informations importantes. Si on veut travailler un texte difficile, bon, je pense là à l'approche des examens, mais il faut du temps et il faut pas être distrait. Ça, c'est très important. Et puis, de façon générale, il faut pouvoir ménager des temps de pause. C'est très important. Ça a été montré d'ailleurs très bien par l'imagerie cérébrale, qui a montré que notre cerveau possède un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut, en fait, qui se déclenche quand on n'est pas en contact immédiat avec l'environnement. C'est-à-dire quand on n'est pas sollicité, vous voyez, de façon intensive, notre cerveau continue de travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on part dans les pensées, on pense à la mémoire autobiographique, on échafaude des projets pour le futur, on part dans des rêveries qui peuvent être un peu fantasmagoriques, mais qui sont en même temps créatives. Et ces moments-là sont très importants également pour la synthèse de la mémoire. Donc c'est une activité qu'on a quand on est éveillé, et c'est une activité qui est en lien avec le sommeil aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux moments-là, on a besoin de ces moments de repos, où on va contrôler les informations, puis on a besoin du sommeil qui va les consolider en quelque sorte. Donc il faut protéger le sommeil et il faut protéger aussi ces moments de quiétude, à la fois chez l'enfant et l'adolescent, puis aussi chez l'adulte. Ça c'est quelque chose de très important. C'est plus qu'un apprentissage mécanique. C'est la mémoire, c'est beaucoup plus que des apprentissages mécaniques forcés. C'est beaucoup plus complexe que cela.
Et la mémoire, c'est aussi de l'émotion, non, Roland Portich? C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on se souvient de où nous étions, de certaines choses. On peut citer des dates très précises parce qu'on l'associe à ce que nous sommes, à un moment émotionnel qui nous appartient.
Oui, ça fait partie des éléments tout à fait fondamentaux de la mémoire, et qui tiennent d'ailleurs à des réalités physiques. C'est-à-dire que dans notre cerveau, les deux hippocampes, qui sont le grand maître de la mémoire, c'est cette zone cérébrale qu'on appelle l'hippocampe, sont très proches de nos amygdales, qui sont le centre des émotions. Et donc, effectivement, la mémoire fonctionne beaucoup avec cet élément qui est l'émotion. Et donc, tout ce qui est qui a une coloration émotionnelle se retient avec beaucoup d'intensité.
La raison pour laquelle je me souviens exactement, comme tout le monde, de l'endroit où j'étais lorsque Kennedy est mort, parce que je faisais telle chose, ou lorsque une élection a eu lieu, ou n'importe quoi de ce genre.
Alors, ça a une importance d'autant plus grande quand il s'agit, par exemple, des odeurs. Mmh. On a rencontré, en faisant le livre, des nez du parfum. Et les nez du parfum, bah, précisément les odeurs passent pas par le cortex cérébral, mmh. passent pas par l'analyse du cortex cérébral, elles vont directement dans cette zone qui est la zone des émotions et des amygdales. Elles sont en liaison directe avec les amygdales. Ce qui fait que ces gens, ces nez du parfum ont dans leur mémoire une véritable bibliothèque mmh. d'émotions. Et c'est pareil aussi pour les spécialistes du vin.
Ouais, mais et même pour nous le disons aussi, il y a des choses qui ont des odeurs d'enfance, les odeurs de colle, les odeurs d'automne, les odeurs de marron, ce sont des odeurs d'enfance, c'est ce qui nous ramène à cette mémoire. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, le sujet est passionnant ce soir parce que la mémoire, c'est vraiment une grosse problématique de société, je trouve, dans la mesure où, effectivement, la connaissance et la mémoire sont liées, mais la mémoire permet d'avoir la possibilité d'avoir des acquis personnels et d'avoir des capacités d'analyse, notamment par l'emmagasinage d'un tas de connaissances que l'on va pouvoir réutiliser en faisant des synthèses au moment où on a besoin de s'exprimer, où on va pouvoir trouver le mot exact pour bien faire passer ce que l'on veut exprimer, n'est-ce pas ? Parce qu'on a eu des acquisitions suffisantes pour avoir tout un tas de connaissances qui permettent des nuances lorsqu'on s'exprime. Et ça, je trouve que c'est une capacité énorme quand on est adulte, mmh. n'est-ce pas ? Ça semble quelque chose presque d'inutile d'acquérir des mémoires, d'acquérir des connaissances quand on peut avoir un substitut, par exemple, par tout ce qui est actuellement les ordinateurs, etc., etc. Mais ça ne rend pas autonome d'avoir recours nécessairement à une calculette pour savoir, mmh. par exemple, les multiplications, ou pour savoir avoir une idée d'une règle de 3, pour avoir, c'est l'autonomie, quoi, avoir beaucoup de mémoire, beaucoup de connaissances, ça permet d'avoir un esprit de synthèse, et c'est bien dommage qu'actuellement, il semble que la mémoire et le par cœur soient interdits à l'école, n'est-ce pas, en tout cas, le faire apprendre par cœur, c'est interdit, je crois, depuis à peu près les années 80, et ça a été aux grandes dames des instituteurs de l'époque qui disaient, oui, mais ça nous est interdit, on peut pas les obliger à avoir des connaissances acquises par le par cœur, on est obligé de le faire par analogie.
Merci.
Alors, c'est-à-dire que l'analogie, c'est du décalque. Mais lorsqu'on n'a plus le papier calque, eh bien, on ne sait plus retrouver ce qu'il en est du dessin qu'on voulait voir en dessous, quoi.
Merci beaucoup. Voilà. Merci, Alain. Merci, voilà. Alain. Merci. Roland Portiche, il y a une chose intéressante dans ce que dit Alain. Il parle de l'acquis personnel,
oui.
en fait.
Je crois qu'il a raison. Je crois que vraiment, elle a totalement raison. Je suis totalement d'accord avec lui. Il y a une chose que dit...
À chacun sa mémoire.
Oui, c'est ça. Parce que c'est
pas un gros bagage qu'on a tous.
C'est
ça.
Fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait cette relation entre ce que je viens d'apprendre et puis ce que je savais déjà. Et comment ça s'appelle ça ? Ben ça s'appelle la créativité. La créativité, l'ordinateur ne le fera pas pour vous, parce que vous aurez une idée originale dans la mesure où vous aurez mis en relation quelque chose qui a peut-être rien à voir avec des choses que vous savez, et en même temps, vis-à-vis de quoi vous ferez un lien. Dans le livre, Jacques Attali, que nous avons interviewé, appelle ça « faire des ponts ». Mmh. Eh ben, je crois que l'intelligence, ça consiste à rapporter les informations les unes aux autres, à faire des ponts, précisément entre les choses qu'on sait. Alors, pour autant, c'est précisément ces outils informatiques ont une utilité, c'est qu'on ne va pas encombrer notre mémoire de choses qui ne sont pas très nécessaires.
Comme les numéros de téléphone.
Mais exactement. Mais en revanche, il faut garder toujours cette possibilité de faire des ponts entre des choses importantes qu'on apprend et des choses importantes qu'on sait.
Francis Eustache, sur cette idée de créer des ponts, effectivement, et d'avoir cette mémoire personnelle qui est la nôtre et qui est finalement notre bagage en fait, avec lequel on traverse la vie.
Oui, en fait, Alain a posé la question du lien entre la mémoire interne, ce qu'on appelle la mémoire interne, et la mémoire externe. C'est-à-dire que la mémoire, elle va fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'on fait une synthèse personnelle, et puis on prend un puits également sur des mémoires externes, sur des connaissances externes. Oui. Mais effectivement, pour être force d'argumentation, de conviction, pour avoir un libre arbitre, il faut pouvoir s'appuyer sur la synthèse mentale, sur notre mémoire, sur ma mémoire. Et donc ça, c'est très important. Ça a été dit tout à l'heure, au tout début, que d'une part, il y a la mémoire, d'autre part, l'intelligence. Mm-hmm. Non, je ne crois pas.
J'allais vous poser la question. Il y a évidemment aucun rapport entre l'un et l'autre.
Non, je pense que notre capacité de libre arbitre, de prendre des décisions, d'argumenter, enfin, dans un débat ou face à une assemblée, c'est bien sûr de l'intelligence, mais c'est en même temps puisé dans toutes les connaissances que l'on a, qui sont organisées, sur lesquelles on a réfléchi. Et donc c'est un ensemble. Et donc c'est extrêmement difficile de dissocier l'un de l'autre. Je voulais juste faire une petite remarque.
Allez-y.
Par contre sur ce que disait Alain tout à l'heure, c'était le par cœur à l'école. Je pense qu'il faut pas être caricatural.
Oui,
les maîtres d'école continuent de faire apprendre des récitations et les alphabets et puis etc. C'est pas aussi caricatural que ça, heureusement.
Et c'est pas interdit. Bonsoir Servane. C'était le sens de votre question, bah, allez-y, enfin de votre remarque. Vous êtes institutrice, j'imagine, au regard de votre question.
Je suis professeure de français.
Professeure de français, d'accord.
Oui, mais j'ai beaucoup d'amis instituteurs et c'est vrai que oui, c'était plus une remarque. J'étais assez choquée par les propos de l'auditeur d'il y a quelques minutes qui soutenait que c'était, je cite, interdit d'apprendre par cœur à l'école depuis les années 80. Je suis assez interloquée d'entendre ça. Je suis pas depuis très longtemps dans l'enseignement, mais bien sûr qu'on demande encore du par cœur, que ce soit en français, en histoire, en maths, en sciences, en tout ce qu'on veut. Le par cœur, on en a besoin tout le temps, tous les jours. On le demande aux élèves constamment. Et voilà, c'était simplement une remarque dans ce sens.
Eh ben merci de faire cette remarque. Effectivement, parce que moi aussi, j'étais étonnée sur l'interdiction qui me paraissait quand même un peu trop grosse. Qu'est-ce que vous faites apprendre par cœur à vos élèves, vous, Servane, par exemple, par curiosité?
Tout ce qui va être grammaire, notamment.
D'accord.
La conjugaison.
Donc les règles de grammaire.
Ouais, les règles de grammaire, toutes les terminaisons, les listes de prépositions, ce genre de choses. Aussi tout ce qui va être chronologie, les œuvres littéraires pour pouvoir les situer dans le temps. Également toutes les caractéristiques des œuvres littéraires. Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie? Enfin, tout ça, on a besoin du par cœur. Et enfin, mes collègues d'histoire notamment, sans par cœur, ils pourraient pas travailler. Enfin, tous, on a tous besoin du par cœur, c'est évident.
Ça veut dire les règles de grammaire, par exemple. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, tous les mots commençant par AP prennent de P, sauf apparaître, apercevoir, je sais plus quoi, etc. Toutes ces règles là. Continue à s'apprendre par cœur.
Ah bien sûr, on essaye en tout cas, mais oui, l'accord du participe passé avec le COD, etc., toutes ces choses-là, on demande, on supplie presque les élèves de les apprendre par cœur, parce que clairement, à part le par cœur et une application régulière, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Donc oui, bien sûr, du par cœur, il y en a besoin tous les jours, tout le temps.
Mais où est donc Ornicard? Merci beaucoup, Servane, ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est comme les odeurs dont vous parliez tout à l'heure. Vous voyez, Roland Portiche, c'est un par cœur qui est des odeurs d'enfance. Cette question sur franceinter.fr, j'ai tendance à penser, nous dit cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, que plus le téléphone est smart, moins l'utilisateur l'est. Autrement dit, certains d'entre nous ont pris l'habitude de déléguer à leurs appareils ce que leur cerveau faisait très bien avant, comme par exemple les listes, les calculs ou les choses comme ça. Ceci nous rend un petit peu abrutis et fait de nous des assistés dépendants de notre smartphone. Il y a des choses qui sont très basiques, comme par exemple effectivement la liste de courses ou de souvenir de ce qu'on va acheter ou de faire une addition quand on est en train de faire le marché. On a l'impression que c'est des choses qu'on a oubliées, ça, aujourd'hui, qu'on ne fait plus, en fait, du tout, Roland Portiche.
Oui, mais enfin, il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces outils sont quand même très utiles. Et moi, j'avoue que quand je vais faire mes courses, je suis très content d'avoir pu mettre sur mon smartphone la liste des courses à faire et que j'ai pas besoin de perdre mon temps à essayer de me rappeler. La plupart du temps, en plus, on en oublie toujours. Je crois qu'il faut apprendre à vivre avec ces outils, mais pour autant, se dire qu'ils peuvent être aussi extrêmement utiles. Le fait de passer d'information en information peut être quelque chose de très dommageable, mais en même temps, ça peut aussi aiguiser la curiosité. Je veux dire, on a tous navigué sur le web en passant d'une information à une autre, et on finit par trouver des choses et parfois des ponts précisément entre des informations qui n'étaient pas évidentes.
Mais est-ce qu'il faut pratiquer? Est-ce qu'il faut pratiquer son usage de la mémoire? Est-ce qu'il faut de temps en temps apprendre une liste de courses? Est-ce que c'est une légende que de dire qu'on se prémunit en partie contre des maladies comme l'Alzheimer si on entraîne sa mémoire? Est-ce que tout cela est totalement faux ou pas?
C'est pas faux du tout. Je crois que vous savez qu'une bonne manière, mais ça, Monsieur Eustache, je vais vous dire encore mieux que moi, une bonne manière de se prémunir contre la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire que avoir effectivement suffisamment exercé exercer son intelligence et sa culture pour avoir une capacité beaucoup plus grande à résister à cette terrible maladie qui finit par vous détruire les neurones. Donc c'est très important en effet, et en particulier quand on vieillit, de continuer à avoir, parce que quand on vieillit effectivement on peut avoir cette tentation de se dire que c'est fini, on n'a plus besoin de, et c'est précisément le moment où il faut faire attention parce que c'est là où ça devient dangereux.
Ben voilà, ma mère me récite des fables de La Fontaine encore aujourd'hui. Francis Eustache, est-ce qu'il faut l'entraîner effectivement sa mémoire? Et j'ai presque envie de dire, alors j'imagine que c'est moins clair que ça, mais à partir de quand en fait, à quel moment il faut se dire, il faut que j'entraîne ma mémoire parce que ça va m'aider pour la très grande vieillesse?
Depuis tout petit, il faut faire travailler la mémoire tout petit, et l'expérience qui était relatée par l'enseignante tout de suite est très intéressante. Il faut apprendre par cœur tout petit, et il y a des études épidémiologiques très intéressantes qui sont parues depuis 3-4 ans dans plusieurs pays, à la fois des pays du nord de l'Europe et puis des pays américains, qui montrent une baisse, je dis bien une baisse, de l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Alors l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an. C'est-à-dire qu'on avait fait des projections et en fait, on revoit ces projections à la baisse. Vous voyez, c'est quand même une nouvelle très, très intéressante, très positive. Et pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a bien sûr des politiques de santé publique en termes de contrôle de tous les facteurs vasculaires qui interagissent avec les facteurs neurodégénératifs. Mais il y a aussi quelque chose qui a à voir plus avec les aspects cognitifs, avec la réserve cognitive, c'est le fait que plus on accède à l'éducation, donc c'est pour ça que je parlais des tout-petits, parce que ça commence chez les tout-petits, mais ça se prolonge tout au long de la vie, c'est-à-dire plus on accède à l'éducation, plus on apprend, plus on a envie d'apprendre, plus on est dans des réseaux qui communiquent entre eux, alors qui communiquent naturellement entre eux, je parle pas des réseaux sociaux, parce qu'on peut se demander si les réseaux sociaux communiquent vraiment parfaitement entre eux. Donc, quand les personnes sont dans des réseaux, ils vont communiquer ou ils vont avoir une exigence sur le plan intellectuel. Et en fait, toute cette dynamique qui met la personne en relation avec la connaissance, eh bien, va faire en sorte que le cerveau va se développer davantage et va résister aux premiers symptômes d'une maladie du cerveau comme la maladie d'Alzheimer. C'est la maladie d'Alzheimer qui a été la plus étudiée, mais c'est vrai aussi pour d'autres situations, soit des maladies, soit des ruptures existentielles. Et dans ces situations-là, quelqu'un qui a bénéficié de cette réserve cognitive va être beaucoup plus à même de dépasser ces moments-là et de retarder la survenue des symptômes d'une maladie. Alors, ça ne veut pas dire que la maladie n'est pas dans le cerveau de la personne, parce que la maladie d'Alzheimer, elle est en fait dans le cerveau des personnes très tôt. On pense que vers l'âge de 40-50 ans, la maladie est dans le cerveau. Par contre, elle se manifeste beaucoup plus tard, vers 75-80-85 ans. Et donc, cette réserve cognitive peut jouer, en quelque sorte, sur quelque chose comme 5-10 ans. C'est-à-dire retarder, vous voyez, la survenue des premiers symptômes avec un nombre d'années qui est tout à fait significatif.
Et fondamental.
Donc ça, c'est vraiment une découverte très importante qui est corroborée par des études de neurobiologie aussi. C'est pas simplement de l'épidémiologie descriptive.
Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, Marie, on vous écoute.
Je faisais juste la remarque que, à mon avis, pour apprendre une langue étrangère, on a absolument besoin de la mémoire et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et ça, je trouve que c'est formidable. Aussi bien apprendre une langue étrangère ou apprendre un instrument de musique, je ne vois pas comment on peut faire sans mémoire.
Merci beaucoup Marie. Roland Portiche, les verbes irréguliers, les choses comme ça, on y est tous passés. Et effectivement, il n'y a pas d'autre moyen peut-être.
Peut-être, mais peut-être qu'il y en aura. Il faudra justement peut-être y résister. Peut-être qu'il y aura des traductions automatiques dans les années à venir. Vous savez, moi je crois que Eustache a prononcé un mot qui est juste à propos de la maladie d'Alzheimer. Il a parlé de résister. Et résister, je crois que métaphoriquement, ça peut aussi ça peut être aussi utile par rapport à toutes ces technologies, parce que il y a non seulement ce qui nous menace dans l'avenir, c'est l'amnésie digitale dont on a parlé, hein, le fait qu'on délocalise notre mémoire dans ces petits outils, mais aussi peut-être un jour, c'est l'hypernésie digitale. Et là, je fais allusion à des projets qui existent, en particulier autour d'Elon Musk, cette idée qu'un jour, on pourra greffer des puces dans la tête. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein,
j'espère.
Mais ça va venir, puisqu'il y a déjà effectivement des entreprises qui commencent à y réfléchir et qui ont investi là-dedans, avec cette idée que bientôt, on n'aura plus à utiliser Wikipédia, mais on sera Wikipédia.
Et c'est peut-être un peu effrayant quand même. Bonsoir Virginie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci pour vos émissions. Il se trouve que je suis renseignant-chercheur en biologie et par ailleurs je travaille dans un institut de neurosciences à Grenoble. Et j'ai deux publics, des étudiants qui détestent la biologie, ils veulent faire des maths et de l'électronique. Et je leur fais un cours pour me faire plaisir sur les neurosciences et la mémoire. Mmh. Et finalement, j'arrive extrêmement bien à les convaincre qu'ils peuvent apprendre des choses, y compris des choses sur une matière qu'ils détestent, presque, parce que en fait, ils ont un imaginaire. Et s'ils nourrissent une notion de leur propre imaginaire, finalement, ils la retiennent. Et quand on fait des exercices, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont une mémoire extrêmement puissante. Et l'idée associée à ça, c'est leur curiosité. Si une question pique leur curiosité, ils vont y associer, ils vont nourrir cette question de tas de choses qui leur sont propres, et ils vont nettement mieux la retenir. Mmh. Et de la même façon, j'ai un autre public qui est à l'inverse, qui est biologiste. Et eux, ça les passionne, la biologie, ils sont là pour ça. Et finalement, et on fait faire passer pareil des exercices, on les fait sur leur mémoire, et on leur fait faire des exercices où on met des exercices de mémorisation où on met un distracteur. Et ils se rendent compte.
Un distracteur.
Voilà.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire, par exemple, on leur fait faire des exercices de mémorisation et à un moment donné, on leur dit et maintenant, vous retournez votre feuille. D'accord. Et vous écrivez l'alphabet à l'inverse.
D'accord, ok.
Pas dans le sens ABCD, mais réciproquement.
D'accord.
Et alors, du coup, voilà, ils se concentrent là-dessus et boum, ils ont oublié ce qu'ils avaient mémorisé auparavant et on leur demande de restituer ce qu'ils avaient avant. Et ils s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent plus. Et ça, c'est la notion de distracteur. Et du coup, on arrive à leur faire pareil, à leur faire rendre compte que, à leur faire comprendre que pour retenir, il faut nourrir ce qu'on essaye de retenir et il faut aussi y être attentif. Et donc, les notions de curiosité et d'attention, par ces deux publics-là, effectivement, sont extrêmement bien illustrés. Et clairement, ils sont ravis et ils nous disent pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt.
Eh ben, écoutez, c'est vrai que c'est passionnant ce que vous nous racontez, Roland Portiche. Cette expérience de Virginie, elle est formidable, non?
Tout à fait.
Ce que je retiens surtout, c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne retient pas. Il suffit de le faire arriver vers nous différemment, en fait.
Bien sûr. Et je crois que le véritable ressort, c'est pour que la mémoire fonctionne, il faut qu'on encode. Et on n'encode pas quelque chose qui ne nous intéresse pas. Si on arrive effectivement à encoder des informations et en les associant à des choses qui nous intéresse, et un professeur peut servir à ça, effectivement, la mémoire sera victorieuse.
Francis Eustache, j'aimerais bien votre avis sur cette expérience de Virginie et sur ces deux publics.
Moi j'ai beaucoup aimé le témoignage de Virginie parce que elle nous montre qu'il y a les connaissances sur la mémoire, il y a la psychologie, il y a les neurosciences, mais il y a aussi la pédagogie, c'est très important. Et donc, on parle beaucoup de neuroéducation, mais la neuroéducation, elle comprend aussi la pédagogie et la réflexion qu'a menée Virginie. Et les petites expériences qu'elle fait avec ses différents étudiants sont très intéressantes de ce point de vue.
Onyx, c'est vous le dernier auditeur à nous appeler au téléphone. C'est la dernière auditrice, pardon, on vous écoute.
Non, c'est
auditeur.
C'est auditeur.
Oui.
Bonsoir, merci beaucoup.
Allez-y.
Justement, j'entendais votre intervenant qui parlait de la pédagogie. Moi, je suis professeur de musique. J'étais à la maison de Solène, maison des adolescents, et je dirige des chorales. C'est sur deux choses. La première, pour faire très vite, la musique est extrêmement importante pour la mémoire, pas seulement le chant, mais également l'instrument, lire une partition, savoir comment apprendre. Parce qu'on parle de « il faut savoir par cœur ». Non, je ne suis pas tellement d'accord, parce que on dit bien « savoir par cœur n'est pas savoir ». C'est la façon d'apprendre qui est très très importante pour la mémoire. Voilà en gros ce que je voulais dire, l'importance de la musique qu'on devrait développer dès le plus jeune âge.
Francis ce stage, la musique dans la mémoire, et qui permet peut-être aussi d'ailleurs de lutter contre certaines maladies.
Oui, la musique, c'est un support de mémoire extraordinaire, y compris chez les personnes âgées et chez les personnes qui souffrent de troubles de mémoire très sévères. Et puis juste peut-être revenir sur l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur, c'est un mode d'apprentissage. Ce n'est pas le seul mode d'apprentissage, bien entendu.
Et il y a des choses qu'on apprend par cœur, effectivement, on l'a bien compris au cours de cette émission, et d'autres qu'il est inutile d'apprendre par cœur. Encore une fois, il y a un encombrement de la mémoire qu'il est inutile d'avoir. Merci beaucoup, merci mille fois à vous deux, Francis Eustache, qui était là-bas à Caen. Merci à Philippe Abel, grâce aux moyens techniques de Philippe. On a pu vous joindre dans d'excellentes conditions. Merci Roland Portiche, merci à vous tous pour les questions que vous avez posées.